Chapitre 12. D'aucun poisson plus commun entre les sauvages de l'Amérique et de leur manière de pêcher. Afin d'obvier aux redites lesquelles j'évite autant que je puis, renvoyant les lecteurs tant au 3e, 5e et 7e chapitre de cette histoire qu'en autres endroits où j'ai déjà fait mention des baleines, monstres marins, poissons volants et autres de plusieurs sortes, je choisirai principalement en ce chapitre les plus fréquents entre nos Américains, desquels, néanmoins, il n'a pas encore été parlé. Premièrement, afin de commencer par le genre, les sauvages appellent tout poisson pirat. Mais quant aux espèces, ils ont de deux sortes de francs mulets qu'ils nomment courema et parati, lesquels, soit qu'on les fasse bouillir ou rôtir, et encore plus le dernier que le premier, sont excellemment bons à manger. Et parce que, ainsi qu'on a vu par expérience depuis quelques années en deçà, tant en Loire qu'en les autres rivières de France, où les mulets sont remontés de la mer, ces poissons vont coutumièrement par troupes, les sauvages les voyant ainsi par grosses nuées bouillonner dans la mer, tirant soudain à travers, rencontrent si droit que presque à toutes les fois, en embrochant plusieurs de leurs grandes flèches, ainsi dardés qu'ils sont, ne pouvant aller au fond, ils les vont quérir à la nage. Davantage, la chair de ces poissons sur tous autres étant fort friable, quand ils en prennent quantité, après qu'ils les ont fait sécher sur le boucan, les esmiants, ils en font de très bonnes farines. Kamuruponi wasu est un bien grand poisson, car aussi wasu en langue brésilienne veut dire grand ou gros, selon l'accent qu'on lui donne, duquel nos tuyupinambous, dansant et chantant, font ordinairement mention, disant et répétant souvent en cette sorte « Pira wasu aweb, kamurupui wasu aweb », etc. Et il est fort bon à manger. Deux autres, qu'ils nomment wara et akara wasu, presque de même grandeur que le précédent, mais meilleurs, voire diraient que l'ouara n'est pas moins délicat que notre truite. Akarapé, poisson plat, lequel en cuisant jette une graisse jaune qui lui sert de sauce, et en est la chair merveilleusement bonne. Akarabouten, poisson visqueux, de couleur tannée ou rougeâtre, qui, étant de moindre force que les sudis, n'a pas le goût fort agréable au palais. Un autre, qu'ils appellent pira hipochi, qui est long comme une anguille et n'est pas bon. Aussi, hipochi, en leur langage, veut dire cela. Touchant les raies qu'on pêche en la rivière de Genèvre et dans les mers d'environ, elles ne sont pas seulement plus larges que celles qui se voient tant en Normandie qu'en Bretagne et autres endroits de par-deçà, mais, outre cela, elles ont deux cornes assez longues, 5 ou 6 fendasses sous le ventre qu'on dirait être artificielles, la queue longue et déliée, voire qui pisait, si dangereuse et venimeuse que, comme je vis une fois par expérience, sitôt qu'une que nous avions prise fut tirée dans la barque, ayant piqué la jambe d'un de notre compagnie, l'endroit devint soudain tout rouge et enflé. Voilà, sommairement et derechef, touchant aucun poisson de la mer de l'Amérique, desquels, au surplus, la multitude est innombrable. Au reste, les rivières d'eau douce de ce pays-là, étant aussi remplies d'une infinité de moyens et petits poissons, lesquels en général les sauvages nomment piramiri, car miri en leur langage veut dire petit, j'en décrirai encore seulement deux merveilleusement difformes. Le premier, que les sauvages appellent tamuata, n'a communément que 2 pieds de long, à la tête fort grosse, voire monstrueuse au prix du reste, 2 barbillons sous la gorge, les dents plus aiguës que celles d'un brochet, les arêtes piquantes, et tout le corps armé d'écailles si bien à l'épreuve que, comme j'ai dit ailleurs du tatou, bête terrestre, je ne crois pas qu'un coup d'épée lui fît rien. La chair en est fort tendre, bonne et savoureuse. L'autre poisson que les sauvages nomment panapana est de moyenne grandeur. Mais quant à sa forme, ayant le corps, la queue et la peau semblables et aussi âpres que celles du requin de mer, il a au reste la tête si plate, bigarrée et étrangement faite, que quand il est hors de l'eau, la divisant et séparant également en deux, comme qui la lui aurait expressément fendue, il n'est pas possible de voir tête de poisson plus hideuse. Quant à la façon de pêcher des sauvages, faut noter, sur ce que j'ai déjà dit, qu'ils prennent les mulets à coups de flèches, ce qui se doit aussi entendre de toutes autres espèces de poissons qu'ils peuvent choisir dans l'eau. Que non seulement les hommes et les femmes de l'Amérique, ainsi que chiens barbés, afin d'aller quérir leur gibier et leur pêche au milieu des eaux, savent tous nager, mais qu'aussi les petits-enfants, dès qu'ils commencent à cheminer, se mettant dans les rivières et sur le bord de la mer, grenouillent déjà dedans comme petits canards. Pour exemple de quoi, je réciterai brièvement, ainsi qu'un dimanche matin, en nous promenant sur une plateforme de notre fort, nous vîmes renverser en mer une barque d'écorce, faite de la façon que je les décrirai ailleurs, dans laquelle il y avait plus de 30 personnes sauvages, grands et petits, qui nous venaient voir. Comme en grande diligence avec un bateau, les pensant secourir, nous fûmes aussitôt vers eux, les ayant tous trouvés nageant et riant sur l'eau, il y en eut un qui nous dit « Et où allez-vous ainsi si hâtivement, vous autres maïrs ?» ainsi appellent-ils les Français. « Nous venons, dîmes-nous, pour vous sauver et retirer de l'eau. »« Vraiment, dit-il, nous vous en savons bon gré. Mais au reste, avez-vous opinion que pour être tombés dans la mer, nous soyons pour cela en danger de nous noyer ?»« Plutôt sans prendre pied ni aborder terre, demeurerions-nous 8 jours dessus de la façon que vous nous y voyez. »« De manière, dit-il, que nous avons beaucoup plus de peur que quelques grands poissons ne nous traînent en fond, que nous craignons d'en fondre de nous-mêmes. » Partant, les autres, qui tous nageaient voirement aussi aisément que poissons, étant avertis par leurs compagnons de la cause de notre venue si soudaine vers eux, en s'en moquant, se prirent si fort à rire que comme une troupe de marsouins nous les voyions et entendions souffler et ronfler sur l'eau. Et de fait, combien que nous fussions encore à plus d'un quart de lieue de notre fort, s'il n'y en eût-il que 4 ou 5, plus encore pour causer avec nous que de dangers ils appréhendassent, qui se voulaient mettre dans notre bateau. J'observai que les autres, quelquefois, en nous devançant, non seulement nageaient tant roide et si bellement qu'ils voulussent, mais aussi quand bon leur semblait se reposer sur l'eau. Et quant à leur barque d'écorce, quelques lits de coton, vivres et autres objets qui étaient dedans qu'ils nous apportaient, le tout étant submergé, ils ne s'en souciaient certes non plus que vous feriez d'avoir perdu une pomme. « Car, disait-il, n'y en a-t-il pas d'autre au pays ?» Au surplus sur ce propos de la pêcherie des sauvages, je ne veux pas omettre de réciter ce que j'ai ouï dire à l'un d'isseux. À savoir que, comme avec d'autres, il était une fois en temps de calme dans une de leurs barques d'écorce, assez avant en mer, il y eut un gros poisson, lequel, la prenant par le bord avec la patte, à son avis, ou la voulait renverser ou se jeter dedans. Ce que voyant, disait-il, je lui coupai soudainement la main avec une serpe, laquelle main étant tombée et demeurée dans notre barque, non seulement nous vîmes qu'elle avait 5 doigts, comme celle d'un homme, mais aussi de la douleur que ce poisson sentit, montrant hors de l'eau une tête qui avait semblablement forme humaine, il jeta un petit cri. Sur lequel récit assez étrange de cet Américain, je laisse à philosopher au lecteur si, suivant la commune opinion qu'il y a dans la mer de toutes les espèces d'animaux qui se voient sur terre, et nommément qu'aucuns ont écrit des tritons et des sirènes, à savoir si c'en était point un ou une, ou bien un singe, ou un marmot marin auquel ce sauvage affirmait avoir coupé la main. Sans condamner ce qui pourrait être de telles choses, je dirais librement que tant durant 9 mois que j'ai été en pleine mer sans mettre pied à terre qu'une fois, quand toutes les navigations que j'ai souvent faites sur les rivages, je n'ai rien aperçu de cela, ni vu poisson entre une infinité de toutes sortes que nous avons pris, qui approcha si fort de la semblance humaine. Pour donc parachever ce que j'avais à dire touchant la pêcherie de nos touillou-pinambous, outre cette manière de flécher les poissons dont j'ai tantôt fait mention, encore, à leur ancienne mode, accommodant les épines en façon d'hameçon et faisant leur ligne d'une herbe qu'ils nomment toucon, laquelle se tille comme chanvre et est beaucoup plus forte, ils pêchent non seulement avec cela de dessus les bords et rivages des eaux, mais aussi s'avançant en mer et sur les fleuves d'eau douce, sur certains radeaux qu'ils nomment piperies, composé de 5 ou 6 perches plus grosses que le bras, jointes et bien liées ensemble avec des parts de jeune bois tort, étant, dis-je, assis là-dessus, les cuisses et les jambes étendues, ils se conduisent où ils veulent, avec un petit bâton plat qui leur sert d'aviron. Néanmoins, ces pipéries n'étant guère que d'une brasse de long et seulement large d'environ 2 pieds, outre qu'ils ne sauraient endurer la tourmente, encore ne peut-il sur chacun d'eux tenir qu'un seul homme à la fois, de façon que quand nos sauvages en beau temps sont ainsi nus et un à un séparés en pêchant sur la mer, vous diriez, les voyant de loin, que ce sont singes, ou plutôt, tant paraissent-ils petits, grenouilles au soleil sur des bûches de bois au milieu des eaux. Toutefois, parce que ces radeaux de bois arrangés comme tuyaux d'orgue sont non seulement tantôt fabriqués de cette façon, mais qu'aussi flottant sur l'eau comme une grosse clé, ils ne peuvent aller au fond, j'ai opinion, si on en faisait part de ça, que ce serait un bon et sûr moyen pour passer tant les rivières que les étangs et lacs d'eau dormante ou coulante doucement, auprès desquels, quand on est hâté d'aller, on se trouve quelquefois bien empêché. Or, au surplus de tout ce que dessus, quand nos sauvages nous voyaient pêcher avec les raies que nous avions portées, lesquelles eux nomment puissawassou, ils ne prenaient pas seulement grand plaisir de nous aider et de nous voir amener tant de poissons d'un seul coup de filet, mais aussi si nous les laissions faire, eux seuls en savaient déjà pêcher. Comme aussi depuis que les Français trafiquent par-delà, outre les commodités que les Brésiliens reçoivent de la marchandise qu'ils leur portent, ils les louent grandement de ce que le temps passé, étant contraints, comme j'ai dit, au lieu d'hameçons, de mettre des épines au bout de leur ligne, ils ont maintenant par leurs moyens cette gentille invention de ces petits crochets de fer qu'on trouve si propres à faire ce métier de pêcherie. Aussi, comme j'ai dit ailleurs, les petits garçons de ce pays-là sont bien appris à dire aux étrangers qui vont par-delà « De agatolem, anabepinda », c'est-à-dire « Tu es bon, donne-moi des hameçons », car « agatolem » en leur langage veut dire « bon », Amabé, donne-moi, et Pinda est un hameçon. Que si on ne leur embaille, la canaille, de dépit tournant soudain la tête, ne faudra pas de dire « Diangai paiai quoi », c'est-à-dire « Tu ne vaux rien, il te faut tuer ». Sur lequel propos je dirais que si on veut être cousin, comme nous parlons communément, tant des grands que des petits, il ne leur faut rien refuser. Vrai qu'ils ne sont point ingrats, car, principalement les vieillards, lors même que vous n'y penserez pas, se ressouvenant du don qu'ils auront reçu de vous, en le reconnaissant, ils vous donneront quelque chose en récompense. Mais quoi qu'il en soit, j'ai observé entre eux que, comme ils aiment les hommes gais, joyeux et libéraux, par le contraire, ils haïssent tellement les taciturnes, chiches et mélancoliques, que je puis assurer les limes sourdes, songes creux, taquins et ceux qui, comme on dit, mangent leur pain en leur sac, qu'ils ne seront pas les bienvenus parmi nos touyoupinambous, car de leur naturel, ils détestent telle manière de gens.